Ève Roger, et tout de suite, c'est arrivé demain, l'événement de la semaine prochaine, le coup d'envoi de la rentrée littéraire avec la publication du dernier livre d'Amélie Nothomb, les aérostats. Et pour parler du CRU 2020, vous recevez Ève, l'agent littéraire Pierre Astier.
Bonjour Pierre Astier.
Bonjour.
Merci infiniment d'être avec nous en direct ce matin. Alors, on va aller tout de suite au but. Cette rentrée littéraire qui affiche encore 511 romans publiés entre la semaine prochaine et la fin octobre. Est-ce que ce CRU 2020 vous semble vraiment différent des précédents? L'année dernière, c'était 524, c'était pas beaucoup plus.
Effectivement, je m'attendais à ce qu'il y ait moins de titres publiés dans cette rentrée littéraire. Ce qui a été le plus différent, ce qui a été très différent, c'est la manière dont les éditeurs l'ont préparé cette année, puisqu'ils l'ont préparé à la fin du confinement et au redémarrage, je dirais, de l'activité éditoriale et de l'ouverture des librairies. Donc ça a modifié énormément la manière de travailler. Donc on verra ce que sont les conséquences de cette nouvelle façon de faire.
Alors vous écriviez dans Le Monde au mois de mai que l'affaire Matzneff puis la crise du Covid pourraient modifier la stratégie des éditeurs. Alors en quoi ces deux événements auraient pu pousser les éditeurs à publier moins, ce qu'on leur reproche beaucoup chaque année?
Alors, bon, je me suis permis ce rapprochement entre l'affaire Matzneff et puis la rentrée littéraire. Pour certains, ça c'était un peu osé. Il n'empêche que une des choses les plus importantes des rentrées littéraires, c'est la course au prix d'automne. Ouais. Et il se trouve que dans les jurys des prix d'automne, il y a eu des démissions, il y a eu des départs, il y a eu des changements. Donc j'ai fait ce rapprochement. On verra s'il est pertinent ou pas, mais en tout cas se pose chaque année la question de cette surproduction. Là, vous annonciez 511 nouveautés, c'est un peu moins, mais ça reste beaucoup. Il y a un effet entonnoir dans les rentrées littéraires, à savoir que avec ces 6-7 prix littéraires qui sont décernés à la fin du mois d'octobre, début novembre.
On parle du prix Goncourt, Renaudot, Fémina.
Voilà. Exactement. Le Médicis, le Décembre, l'Interallié, l'Académie française. Donc c'est vraiment le moment de l'année où les éditeurs pensent proposer ce qu'il y a de mieux pour concourir pour les prix. Et de ce fait, et c'est ce que je relevais dans l'article que vous citiez, c'est que de ce fait, le reste de l'année est un petit peu moins important pour la littérature française. Et quand je dis reste de l'année, ça veut dire de janvier à peu près à juin. Et donc, pour moi, c'est quelque chose d'un petit peu dommage si je compare à ce qui se fait dans les autres pays, dans le monde, où il y a deux grandes saisons, le printemps et l'automne, et qui s'équilibrent, et qui font que tout au long de l'année, il y a une offre éditoriale littéraire, et des prix qui sont également étalés dans le temps, et ce qui fait qu'on n'a pas cette grande... Alors, ça ne veut pas dire que ce qui est publié en France de janvier à juin n'est pas bon, du tout, au contraire. Mais je pense que à la veille des vacances d'été, il serait bien de proposer davantage de littérature à laquelle les éditeurs croient beaucoup, fortement.
On peut imaginer aussi que s'il y a tant de livres qui sont publiés là en cette rentrée littéraire, ces 511 romans, c'est que les éditeurs veulent continuer à surfer sur la hausse impressionnante des ventes depuis le déconfinement. Je crois que c'est plus 20% de ventes de livres en librairie.
Oui, ça c'est vraiment la très très bonne nouvelle. Il faut d'ailleurs analyser tout cela. La bonne nouvelle, c'est que dès l'ouverture des librairies, la clientèle est revenue, les gens ont acheté des livres. Et d'ailleurs, il faut noter aussi que pendant le confinement, des gens qui n'avaient pas trop l'habitude de lire se sont mis à trouver des livres et ont qu'à lire. Ça, c'est un fait important. Et je vois que les éditeurs ont aussi déplacé la sortie de certains livres qui étaient prévus en mai ou en juin. Ils les ont déplacés même vers le mois de juillet. Donc ce qui veut dire que tout est possible, rien n'est figé. Nous sommes dans un pays qui, à certains égards, est très conservateur, et le monde de l'édition l'est également. Mais on voit qu'on peut bouger les choses. Et par conséquent, voilà. Ce qui était aussi intéressant, c'est que comme sur tout le pays et dans le monde, il y a une grande crainte qui s'est installée, une grande peur. Va-t-on survivre? Va-t-on réussir à reprendre une activité à peu près normale? On peut dire aujourd'hui que oui, l'activité est repartie. Les éditeurs continuent de publier, ont sensiblement réduit la production. Mais voilà, les gens achètent des livres et tout ça est très réjouissant.
Alors ça, c'est des bonnes nouvelles. Alors il y a une nouvelle qui est peut-être un peu moins bonne, c'est que dans cette rentrée littéraire, il y a moins de premiers romans que l'année précédente. Je crois qu'on est passé de 82 à 65. Vous y voyez un mauvais signe ?
Non, alors vous savez, il y a l'expression « valeur sûre » qu'on a retrouvé beaucoup dans la presse ces derniers temps. Les éditeurs auraient misé plus sur leur « valeur sûre » entre guillemets que sur des inconnus. D'ailleurs, ça ne vaut pas pour tous les éditeurs. C'est uniquement certains. Par conséquent, non, je n'interprète pas plus que ça ce phénomène. Je crois que, alors, et puis. Ça nous annonce une belle rentrée de janvier, puisque de bons premiers romans qui étaient annoncés initialement en septembre, on les verra sortir en janvier. Donc bon, voilà, c'est décalé et donc c'est pas plus mal non plus.
Alors on va quand même donner quelques titres de cette rentrée littéraire. Je crois que le plus attendu, c'est peut-être le livre d'Emmanuel Carrère qui s'appelle Yoga. Il y a aussi Jean Rollin, Pascal Quignard. Il y a des auteurs un peu plus populaires aussi comme Isabelle Carré, la comédienne, Muriel Barbery qui avait écrit L'élégance du hérisson ou Grégoire de la Cour. Alors j'ai envie de vous dire quels sont vos pronostics un peu. On parle pas de foot là.
Ah mon Dieu, là vous me posez une colle. Les pronostics. Alors vous savez, la question des pronostics est intéressante parce que avant l'été ou au début de l'été, disons, il y a des pronostics et qui sont toujours bousculés par la réalité des achats de livres, des découvertes que font les libraires, qui sont très importants. Et on s'aperçoit qu'à la fin de la saison, c'est-à-dire début novembre, les pronostics ont été finalement contrecarrés d'une certaine façon. Ouais. Et il y a des nouveaux noms qui sont apparus, il y a des succès assez inattendus, etc. Donc moi je pense que je peux pas faire de pronostics et au contraire même. Ce qui me plaît beaucoup depuis quelques années, c'est que des éditeurs indépendants, par exemple Zulma, Emmanuel Colas, Le Tripode, Le Nouvel Attila, sont présents de manière assez significative dans les rentrées littéraires et ils deviennent des challengers assez importants des grandes maisons et ils reçoivent des prix. Et tout ça, ça veut dire donc que ça bouge, c'est bien.
C'est vivant.
C'est très vivant, en fait.
Alors, j'ai une petite question piège pour vous, pour terminer. Alors, est-ce que vous vous souvenez du prix Goncourt 2019, l'an dernier? Parce que c'est vrai qu'on oublie d'une année sur l'autre. Alors, moi, j'ai cherché, mais ça m'est revenu quand même. Est-ce que ça vous dit quelque chose, le prix Goncourt 2019?
Alors là, vous me posez vraiment une colle, c'est pas possible.
Alors, je vous le dis, c'est Jean-Paul Dubois. Jean-Paul Dubois, tous les hommes n'habitent pas le monde, voilà. Qui était un formidable livre.
Bien sûr.
En tout cas, pardon pour cette petite dernière question, mais c'est vrai que je voulais montrer aussi qu'on donne d'une année à l'autre, on passait toujours à autre chose. En tout cas, merci Pierre Astier d'avoir été avec nous ce matin en direct sur Europe 1. Et puis bonne journée et puis surtout bonne lecture.
Et justement, ces bonnes lectures, si vous n'avez pas pu tout noter, cette interview est à réécouter sur europe1.fr. Il est 9h22.